Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 51e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorités du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, la house. Comment sont-ils apparus, pourquoi, dans quel contexte et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone. C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Parler de punk, puis de ce qui est venu après, le post-punk, sous deux de ses formes prenant inspiration de la Jamaïque, le punky reggae et le ska two-tone. Mais on n'a pas encore parlé de celui qu'on nomme sobrement et simplement post-punk en fait. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le 14 janvier 78 à San Francisco, les Sex Pistols tiennent leur dernier concert. Johnny Rotten annonce à la fin qu'il n'y en aura plus jamais, le groupe se sépare. Certains considèrent cet événement comme la fin du punk carrément, mais ça vous le savez, on en a déjà parlé. En réalité, la scène continue, mais beaucoup y voient une dégradation, une perte des valeurs d'origine et la scène semble se résumer à une parodie d'elle-même avec toujours les trois mêmes accords et des paroles plus du tout revendicatives. Beaucoup de ces jeunes punks ayant embrassé avec excès l'attitude nihiliste et les styles vestimentaires outrageants se retrouvent à la rue à faire la manche dans le métro et agresser des gens. Bref, pas fameux le tableau. D'autres ne tombent pas dans cet esprit mortifère et inventent, dans l'ombre, et sûrement sans s'en rendre vraiment compte au début, la suite. On l'a déjà vu à travers les Clash ou les Slits, avec le punky reggae donc, ou encore les Specials Madness with a Selector avec le two-tone. À Manchester, quelqu'un d'autre est en train de monter un truc également, beaucoup moins d'influence jamaïcaine par contre. Début 77, Howard Devoto quitte les Buzzcocks et fonde peu après le groupe Magazine. Très vite, il signe chez Virgin et début 78 sort Shot by Both Sides. C'est le premier groupe post-punk à passer sur Top of the Pops.
On the road to the outside.
Chiadé, plus arrangé, mieux produit. Le groupe se démarque du punk originel et se fait surprendre par le succès de son premier single. Le post-punk se caractérise par son refus du système et de se vendre. Donc c'est sûr que charter comme ça d'un coup, ça les a étonnés. Donc bien sûr qu'un des bastions était Manchester, une ville naturellement suspicieuse du glamour de la capitale. Une ville très brumeuse et mystérieuse, très industrielle également. La ville voit fleurir plein de petits groupes qui feront histoire, comme Joy Division. Originellement formé en 76 comme groupe de punk, il se démarque très vite en brisant les codes du punk et proposant de nouvelles sonorités, prenant la rage du punk, mais en l'internalisant. En 78, la scène post-punk n'est pas une scène de franche camaraderie. Beaucoup de rivalités entre les groupes et peu de contacts entre eux. Et comme Joy Division, un autre jeune du nom de Marky Smith voit les Sex Pistols en concert en 76. Lui aussi sera inspiré pour créer son groupe, Fall.
A pound note, that stupid bitch.
Ils font du punk à leur façon, ils ne s'habillent pas pareil et veulent faire de la poésie. C'est ça qui les a démarqués aussi. Mais la grande question 78, c'est qu'est-ce que Johnny Rotten fait ? Il est où, lui, depuis San Francisco ? Bah, il a repris son vrai nom, John Lydon. Il est parti faire un tour en Jamaïque pour aider son label, Virgin, à trouver des nouveaux artistes reggae. Et il y rencontrera Ja Wabo. Et il lui propose de monter un nouveau groupe avec lui, Public Image Limited, est né. Le groupe, c'est l'expérimentation de John Lydon, là où il peut explorer son art et proposer quelque chose d'innovant. Là aussi, plus chiadé que le punk originel, on sent le futur arriver. Le problème, c'est que les médias et les gens de l'industrie musicale le prennent de haut. Lui veut faire comprendre qu'il ne vient pas en tant que Johnny Rotten. Il a abandonné ce personnage. Il va de l'avant. Malgré ce mépris, Pale gagne en succès. C'est le post-punk est caractérisé par la parano et son côté sombre. C'est aussi parce que cette année 78 y est propice. Les politiques ont plus ou moins ruiné le pays et les ouvriers partent en grève pour ce que l'on appellera The Winter of Discontent, l'hiver du mécontentement. Un sentiment que le capitalisme va s'effondrer fait peur à certains et en ravit d'autres. Sentiment qui s'empirera avec l'arrivée de Thatcher en 79. Les temps étaient durs, les poubelles n'étaient même plus ramassées. Et c'est littéralement des murs de déchets qui remplissaient Londres. Le gouvernement travailliste, en partie responsable de la situation, est dénoncé par la droite comme étant de dangereux socialistes et communistes, instaurant une dictature. Le pays est au bord de la guerre civile et certains craignent que ce gouvernement mette en place la loi martiale. Et une aile armée du Tory Party, le parti conservateur, préparerait un coup d'État. Et vous pouvez aller voir la mini-série de 1988 ou lire le livre sur lesquels elle est basée, sortie en 82, A Very British Coup, qui est une fiction mais qui ressemble étrangement à cette rumeur de l'époque. Car le post-punk, ce n'est pas que de la musique, on l'a vu à travers les autres sous-genres de lui-même. Ça touche plusieurs secteurs de l'art et de l'esthétique, et les bouquins ou les films ne sont pas épargnés. Il y a aussi le film Radio On de 79 en noir et blanc, une esthétique presque 50s et une atmosphère très pessimiste, en partie grâce à la bande son électronique et froide de l'album Radioactivity de Kraftwerk en fond. Radioactivity. La force du post-punk à l'époque, c'est que c'est un kaléidoscope de styles musicaux, se mélangeant et créant de nouvelles choses. Le punk avait prôné le DIY, le post-punk l'avait fait devenir le son du futur.
absurdity. It's in the end for you and me.
Les synthés, à la base, c'est pas le dada des punks. Pour eux, ça reste un instrument utilisé dans les musiques qu'ils détestent, comme le prog rock, avec des prétentieux aux cheveux longs tapant des solos compliqués beaucoup trop longs et pseudo-classiques. Mais si on y réfléchit bien, y a pas plus punk comme instrument qu'un synthé. Il suffit de bidouiller trois boutons et d'appuyer sur deux ou trois notes, et on a un son plus ou moins décent qui peut suffire pour tout un morceau.
Choice, what would you say? The path of least resistance, it seems the only way. But can't we look a little further to level four? I think self-belief's the answer, and not another drink. The safe method, the only way. You'll rationalize your course, stay part of the crowd, and never find the source. Feel wanted, feel numb, just stay as you are. The truth is, comfort kills, and you don't need that car. So sad, the early grave, when all the funds were free. Start digging the early grave, and keep it warm for me.
Mais bon, les groupes comme Human League ne font pas non plus unanimité chez cette mouvance post-punk, particulièrement chez ceux qui viennent de la génération punk, comme John Lydon, qui a du mal à voir le lien de parenté entre ce qu'il fait et ce nouveau son. Et malheureusement, c'est lui qui fait les critiques dans Enemy à l'époque. Ce qui revient à peu près à être César qui met son pouce en l'air ou vers le bas au Colisée. Et John n'est pas tendre avec ceux qu'il appelle des sales hippies. En 1979, le futur de la musique britannique est forgé par le post-punk.
Thank you.
1900, par exemple, avec des groupes comme Gang of Four qui définissent leur musique comme un mélange de funk et de rock, l'arrivée du son Britpop si caractéristique des années 90 et 2000. Mais en passant dans cette lumière de la catégorie music pop, comment rester intègre, fidèle à ses valeurs héritées du punk tout en divertissant le plus grand nombre? La réponse à ce dilemme est peut-être matérialisée par l'invitation de Gang of Four dans Top of the Pops pour y jouer leur manifeste anti-consumériste At Home is a Tourist. Dans les répètes sur le plateau, les producteurs de l'émission se rendent compte que les paroles disent à un moment « And the robbers you hide in your top left pocket » ou en français « Et les capotes que tu caches dans ta poche gauche ». Et ça, c'est pas possible de dire ce mot répugnant à l'époque sur un show qui se veut familial. Le groupe discute alors longuement, se demandant s'ils sont prêts à accepter la censure. Change quand même le mot « robbers en pockets ». Les producteurs leur disent que ça a toujours le même sens et qu'il faut changer en « robbers ». Et le groupe en a marre et se barre du studio. En résistant, le groupe se dit quand même qu'il n'a pas beaucoup gagné. Comme ils n'ont pas plié, Top of the Pops a appelé en dernière minute Dire Straits, qui, grâce à ça, sera en haut des charts pendant plusieurs semaines après. Et puis la conceptualité du post-punk n'est pas comprise par les gens qui composent les comités choisissant les musiques qui seront diffusées dans chaque radio. Et c'est pas bon pour se faire connaître si on n'est pas diffusé. Mais heureusement qu'il y a des magazines comme Enemy ou Sounds qui parlent de ce mouvement, au moins juste pour savoir c'est quoi tout ça. Ce qui permet au groupe de percer malgré la censure de la télé et de la radio.
Listen to the music that, thinking that, listen that, she said, that's that, I don't want.
catégoriser le post-punk comme étant en dehors du mainstream, ce serait faux. Du moins en partie. Ce serait omettre toute une partie du mouvement. Il y a eu plein de musiciens de cette période ayant battu des carrières très florissantes sur une nouvelle vague de musique pop inspirée du punk, la fameuse New Wave. Parce que non, la New Wave, c'est pas que ce truc déprimant avec des mecs qui se rendent eux-mêmes aveugles en faisant pousser une frange noire devant les yeux. La New Wave, c'est aussi Elvis Costello ou The Police, par exemple. Mais cette vague de pop-punk ne plaît pas non plus à tout le monde. Et en cette année 79, triste et dérangeante pour le mouvement punk, en passant à cause du suicide de Sid Vicious en février après le meurtre présumé qu'il aurait commis sur sa conjointe Nancy Spangen en octobre 78, d'autres de la première vague du punk se renouvellent. Et oui, je vais encore parler de John Lydon et Peel. The Police, groupe que Lydon déteste, est partout à la radio et dans les charts. John et son groupe jouent en juillet 79 dans Top of the Pops, leur dernier titre tout fraîchement sorti, Disco Death, un mélange de dub, de disco et de Tchaïkovski, avec des paroles à propos de la mort récente de la mère de Lydon. Subversif sans l'être vraiment, cette apparition de PO sur l'émission montre que l'alternative devient la norme et qu'il vaut mieux y aller que de refuser par principe parce qu'on est trop punk, ouais. Présenté dans une boîte en métal comme une capsule temporelle, l'album Metal Box représente bien cette année 79, un peu sombre et dépressive. Plus de guitares trash qui prennent toute la place. Avec cet album, John Lydon et son groupe sont partis sur des trucs plus tranquilles, plus mélodiques et plus expérimentaux. Une sorte d'oscillation entre les différents éléments, comme dans le reggae et le dub. Les punks avaient cassé les codes du rock, le post-punk se chargeait lui de déconstruire la norme orthodoxe qui était devenue à son tour le punk. Le post-punk était un nid à créativité et à idéalisme, prouvant que le rock'n'roll n'était pas qu'une grande escroquerie. L'idée générale au sein du mouvement, c'est qu'il faut contrôler les moyens de production. Les artistes font maintenant attention à chaque clause de leur contrat, se méfient des majors et veillent bien à ne pas être tournés en groupe de punk familial et stérile. Formé par Jeff Travers en 78, Rough Trade était un label indep issu de cette génération. La génération punk est très ouverte à tout style de musique. Et ce qui fait la différence, c'est leur business model. Ils ont énormément de références, certaines qui ne se vantent pas beaucoup, mais ils les gardent quand même, permettant à toute cette musique de ne pas tomber dans l'oubli et permettant aux amateurs de trouver des petites pépites plus facilement. Et ce qu'était Rough Trade à Londres, Factory Records l'était à Manchester, avec comme leader et effigie la personnalité télévisuelle haut en couleur Tony Wilson. Factory, fondé en octobre 78, signe Joy Division comme premier groupe de son catalogue. Mais cette histoire, on la continuera la prochaine fois. Et oui, Subculture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, fréquence 91 de la bande FM, comme toujours, ou sur le site radiofmplus.org via l'onglet Écouter le direct ou encore sur les applis Radio Line ou les radios associatives. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents en podcast toujours sur le site radiofmplus.org. Et quant à moi, je vous dis salut, see you next time. Your these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the end, so leave them for another.